La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N. Hélène Maquet.
Monster Eye has won. À moins de 22 ans, un coureur qui était encore amateur la saison précédente réussit l'exploit dont toutes les vedettes rêvent, enlever le championnat du monde.
Et puis du sang s'est mis à couler de son nez, de ses oreilles. Il n'a plus bougé, il est resté allongé, immobile.
La jeunesse, la gloire et puis la mort, telle est l'histoire de Jean-Pierre Monceret.
Son nom reste associé au plus terrible drame qu'a connu le cyclisme belge.
Champion du monde à 22 ans, capable de battre Merckx, Jean-Pierre Monceret était le nouvel espoir belge, la nouvelle étoile flamande, capable de briller sur le cyclisme mondial.
Mais une voiture présente sur la route d'une course de kermesse en a décidé autrement.
Sa mort a suscité une intense émotion populaire et soulevé un débat sur la sécurité des cyclistes.
En Flandre, Jean-Pierre Monceret n'a pas été oublié. Il hante encore les courses, plus de 40 ans après sa mort.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. On revient sur une page noire du cyclisme belge aujourd'hui et on remonte, Bertrand, au début des années 70.
Oui, une période début des années 70 qu'on associe évidemment à l'heure de gloire du cyclisme belge avec Eddy Merckx qui commence à tout gagner à cette époque-là. Mais à côté de Merckx brillent aussi des Lucien Van Impe, Walter Godefroot ou Roger de Vlaeminck. Une époque de domination belge sur le cyclisme mondial, une époque donc glorieuse, fantasmée d'ailleurs parfois par les amateurs de cyclisme. Mais il y a eu aussi des pages noires, plus tragiques, et en particulier en 1971, l'histoire de Jean-Pierre Monceret, un gamin flamand qui a 22 ans, va perdre la vie sur une route d'une course de kermesse près de Réty avec le maillot de champion du monde qu'il avait remporté quelques mois plus tôt.
Et cette histoire, elle reste profondément ancrée au nord du pays, à Roulers. Une stèle commémorative a été érigée plus de 40 ans plus tard. L'émotion populaire soulevée par la mort de Jean-Pierre Monceret ne cesse de surprendre. Ça confirme que le vélo est un élément quasiment identitaire au nord du pays. Les stars actuelles et passées du cyclisme tiennent une place toujours particulière dans la mémoire collective.
Oui, et l'histoire de Jean-Pierre Monceret nous parle toujours aujourd'hui, en particulier à travers la question de la sécurité dans les courses, mais aussi peut-être dans le vélo au quotidien. Jean-Pierre Monceret est mort à cause d'une voiture qui n'aurait pas dû se trouver à l'endroit où elle était. La question de la protection des usagers faibles que sont les cyclistes contre les autres usagers de la route n'était pas du tout posée en 1971. Elle l'est beaucoup plus aujourd'hui, mais à chaque accident en course ou d'ailleurs à l'entraînement avec des véhicules, la question est reposée, celle de la coexistence, sur des mêmes routes entre voitures, camions et puis les vélos.
Alors, pour en parler avec nous, nous accueillons François Brabant. Bonjour François.
Bonjour.
Rédacteur en chef de Wilfried, grand amateur de cyclistes, pratiquant au quotidien, presque une religion.
Oui, ouais, tout à fait.
Et au co-auteur du livre Le siècle des coureurs, Jean-Pierre Monceret. C'est un mythe.
Oui, bien sûr. Un mythe pour plusieurs raisons, parce qu'il s'inscrit dans une dimension identitaire flamande, parce qu'il rappelle aussi à quel point il y a une dimension tragique omniprésent dans le cyclisme, mais aussi parce qu'il a initié ce que certains ont appelé la malédiction du maillot de champion du monde. Il faut se rappeler qu'en 1956, il y avait eu un autre coureur belge, très jeune lui aussi, Stan Okers de Borgerhout, qui était mort sur la piste du vélodrome d'Anvers. Ça avait créé un choc. Moi, je me souviens que le frère de ma grand-mère de Charleroi me disait, quand j'ai appris la mort de Stan Okers, enfant, j'avais pleuré tout le soir dans la chambre de ma maison. Et alors, l'année passée, 2022, Julien Alaphilippe, dans la descente de Liège-Bastogne-Liège, de Francorchamps, pour aller vers le pied du Rosier, maillot de champion du monde, chute collective à plus de 80 km/h, et on voyait le corps d'Alaphilippe inerte. Je pense que ça a créé un effroi terrible. Et à côté de lui, Romain Bardet qui hurlait après les secours. On s'était dit, là, il se passe quelque chose. Heureusement, ce n'était pas si grave, mais ça fait résonner évidemment cette malédiction du maillot de champion du monde dont certains parlent.
Allez, avec nous également Rodrigo Benkens. Bon, pas besoin de le présenter.
Mythe en parlant de mythe.
Mais quand même, voilà, je le mets quand même pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, il n'est pas en direct, il n'était pas disponible, Rodrigo, mais on l'a donc enregistré il y a quelques jours et on lui a demandé aussi ce qu'évoquait pour lui, tiens, ce nom de Jean-Pierre Monceret.
Mon premier vrai souvenir d'un championnat du monde cycliste, c'était le 16 août 1970. Les championnats du monde se disputaient au Royaume-Uni, à Leicester. Et moi, j'étais en vacances au Portugal, dans la ferme familiale, une quinta, comme on dit en portugais, et où nous n'avions pas la télévision. Et mon papa m'avait amené dans un bar, pas loin de là, où nous regardions en grand supporter, évidemment, d'Eddy Merckx, qui venait de gagner le Tour d'Italie, le Tour de France. Même si je savais que l'année précédente, en 1969, le grand Merckx avait déjà archi-dominé tout le monde, mais que la dernière grande course très importante, le Tour de Lombardie, avait été gagnée par un très jeune gamin, Jean-Pierre Monceret. Donc on est tous derrière Merckx, au milieu de ce bar de Portugais, et c'est Jean-Pierre Monceret qui s'impose. Et je me souviens de la tête des gens qui étaient là, qui me disaient mais gamins, déjà vous avez le meilleur du monde, si vous avez encore des jeunes qui arrivent, c'est formidable.
Tout l'espoir qui planait au-dessus de la tête de Jean-Pierre Monceret, Rodrigo Benkens, journaliste à la RTBF qu'on retrouvera plus tard dans cette émission, évidemment. En attendant, donc, on se replonge tout de suite dans nos archives.
Mars 1971. Roulers, petite ville plantée en plein milieu de la vaste plaine de la Flandre occidentale, bruisse d'une agitation particulière. Des milliers de personnes débarquent, tentent de garer leurs voitures où ils peuvent et souvent où ils ne peuvent pas. Ils marchent le long des chaussées et se dirigent tous vers le même endroit, la Sint-Michielskerk, l'église Saint-Michel et ses pierres jaunies dressées au milieu de la ville. Ils sont près de 40 000 à marcher comme ça. La plupart sont habillés comme un dimanche, alors qu'on est samedi. La plupart ont des vestes grises ou noires. Dans un vaste mouvement ordonné, ils s'entassent dans le calme, sur le parvis de l'église. Épaule contre épaule, ils forment un amas dense, duquel émergent ça et là des taches de couleurs vives. Ce sont des épais bouquets de fleurs qui balancent sous leur poids. Ces bouquets et couronnes avancent lentement, difficilement vers la porte de l'église. Il y a aussi des drapeaux belges et flamands qui dépassent de la foule. Roulers a des airs de carnaval, ou plutôt de procession populaire. Un homme grimpe dans un arbre pour tenter d'apercevoir quelque chose. Et puis, d'un seul coup, alerté par une quelconque rumeur, le peuple se tait. Il est là. Le silence s'installe. On aperçoit au loin une voiture noire. C'est le corbillard qui amène le cercueil de Jean-Pierre Monceret. Il avance très lentement. La foule est tellement compacte qu'il faut de longues minutes pour qu'il franchisse les 50 mètres qui le séparent encore de l'église. Puis, le cercueil est tiré du véhicule. Il est porté par 8 hommes habillés du même costume noir. Sur le cercueil, lui aussi entièrement noir, une lumière attire irrésistiblement le regard. La lumière d'un arc-en-ciel dessiné sur le maillot blanc de champion du monde de cyclisme.
And who's this coming up? It's all going mad here inside Mallory Park.
Pour comprendre l'intensité de l'émotion populaire de ce 20 mars 1971, il faut se replonger quelques mois plus tôt. Le jour où Jean-Pierre Monceret, 22 ans, a remporté ce maillot blanc, flanqué d'un arc-en-ciel. Le jour où il est devenu champion du monde à Leicester, au Royaume-Uni, le 15 août 1970. Le petit gars de Menin est devenu champion du monde. Sur le podium de Leicester, Jean-Pierre Monceret affiche un sourire qui semble éternel. Les médias vont l'encenser, le porter au nu, le légender comme l'espoir du cyclisme belge, celui qui va peut-être un jour détrôner le roi Eddy Merckx. Et la RTBF n'est pas en reste.
À moins de 22 ans, un coureur qui était encore amateur la saison précédente réussit l'exploit dont toutes les vedettes rêvent, enlever le championnat du monde. À Leicester, en Angleterre, sur un circuit battu par le vent mais trop facile, le favori, Eddy Merckx, est resté prisonnier du peloton. Mais Jean-Pierre Montserré, lui, a su saisir sa chance. Il a accompagné la grande offensive italienne de la mi-course. Il est reparti dans la finale et à quelques centaines de mètres de l'arrivée, il a surpris ses derniers compagnons pour gagner devant Mortensen, Gimondi, West, Rouxel et Vasseur.
Avec son équipe Flandria, il a gagné le championnat du monde 1970. Avec ses équipiers, les frères Roger et Eric de Vlaminck, il réussit à isoler Eddy Merckx et son équipe Faima. Pas si intouchable que ça. Le cyclisme belge d'alors est en pleine explosion. Merckx est l'étendard d'une génération dorée, une génération qui domine, de la tête et de cuisse, le cyclisme mondial. Les frères de Vlaminck, Walter Godefroot, Herman Van Sprengel, Daniel Van Rijckeghem, Frans Verbeek, Freddy Martens, une longue liste de noms rocailleux que les commentateurs des radios du monde entier redoutent de prononcer. Dans cette liste, le nom de Jean-Pierre Monceret apparaît tout d'un coup très singulier. Ce nom a la consonance française, est pourtant celui d'un pur Flandrien, un cyclisme de puissance arraché au pavé, au vent et à la platitude flamande. Avec les frères de Vlaminck, Jean-Pierre Monceret et l'équipe Flandria se livrent à un duel avec Eddy Merckx, le cannibale. Après avoir remporté le Tour de Lombardie en 1969, Jean-Pierre Monceret confirme donc sur le championnat du monde de Leicester en 1970. Au milieu du vent, de la grisaille, il gagne l'arc-en-ciel.
Éternel second, trois fois deuxième d'un championnat de Belgique, une fois deuxième d'un championnat du monde chez les amateurs, le gentil Monceret a vaincu le cygne indien. Il a conquis le maillot arc-en-ciel, but suprême de tous les coureurs cyclistes professionnels.
Ce jour-là, Jempy Monceret, comme l'appelle la Flandre, devient celui qui peut battre Merckx. Déjà, étoile montante après sa victoire au Tour de Lombardie, il devient le nouveau grand espoir du cyclisme belge. Talentueux sur le vélo, attaquant dans l'âme, insatiable de victoire, la RTBF s'intéresse donc, elle aussi, au phénomène Jean-Pierre Monceret. Elle va à la rencontre de Jempy dans une fermette du Pajottenland. La RTBF dresse un portrait. Jempy est simple, affable, drôle et profondément populaire. Amateur de Rodenbach, de football et de parties de cartes. Il est filmé en train de jouer avec un poney dans une prairie ou soignant ses pigeons dans son pigeonnier avec son jeune fils, Giovanni.
Jean-Pierre Monceret, qui fut aussi l'année passée 8e de Gent-Wevelgem, 6e du Tour des Flandres, 10e de Paris-Roubaix, 8e de la Flèche Wallonne et 3e du championnat de Belgique, un palmarès dont se contenteraient beaucoup de jeunes professionnels, va entamer la prochaine saison avec un maillot arc-en-ciel sur les épaules grâce à sa victoire de Leicester. Sa classe est indéniable, mais il sait aussi que sa carrière commence seulement et que le plus difficile reste à venir. Il lui arrive de passer de longs moments avec son petit garçon Giovanni dans son pigeonnier. Il lui arrive de se demander s'il ne rêve pas, s'il est bien champion du monde. Il lui arrive de rêver à d'autres victoires, et quand on a 22 ans, toutes les courses ne sont-elles pas faites pour être gagnées?
Le reportage se termine, on aperçoit Jean-Pierre Monceret tenant affectueusement Giovanni Monceret, âgé de 2 ans et demi, coiffé d'une casquette Flandria, trop grande pour lui. Jean-Pierre Monceret lui présente un pigeon, mais Giovanni ne semble pas tenté de caresser le volatile. Quelques mois plus tard, le 15 mars 1971, Jean-Pierre Monceret est à nouveau en une des journaux. At Last in Nice, le plus gros tirage du pays, montre en une photo en noir et blanc. Elle montre le béton d'une route de Heerl, près de Turnhout. Jean-Pierre est allongé sur le dos. Son bras droit est replié sur son maillot de champion du monde, comme un gisant. L'autre est étendu sur la route. Un peu de sang coule de son genou gauche. Près de lui, son vélo, la roue avant, complètement déformée. juste derrière une voiture avec le pare-brise éclaté. Le titre, en caractère gradi, « La mort de Jean-Pierre Monceret, une catastrophe pour le cyclisme ». Ce jour-là, le 15 mars, Jean-Pierre participe à une course de kermesse près de Turnhout. Jean-Pierre est à l'arrière d'un petit peloton, il roule vers Geerle. Les organisateurs de la course n'ont pas jugé bon de fermer la route. Une dame roule dans le sens inverse avec une Mercedes. Elle raconte dans un documentaire de la VRT.
Je venais de Geerle et je roulais vers Lille. Soudain, la course était là, sans que je ne puisse rien faire. J'étais complètement immobile, j'étais garée dans l'herbe. Dès que j'ai vu la course, je me suis mis sur le côté et puis il est arrivé sur ma voiture, sur le côté gauche du pare-brise. Il a volé sur le côté gauche.
Jean-Pierre Monceret a sans doute voulu dépasser le petit peloton. Sans doute a-t-il voulu regarder à l'arrière pour jauger d'éventuels poursuivants. En tout cas, il se retrouve nez à nez avec la voiture et ne peut pas l'éviter. Il n'a pas freiné et l'a percuté de plein fouet. La VRT a recueilli le témoignage d'un coureur qui était dans le peloton de poursuivants derrière Jean-Pierre
Monceret.
J'étais dans le deuxième peloton, je me souviens très bien. Nous voyons une chute, 400 mètres devant nous, et nous voyons quelqu'un voler. Ça arrive, hein, ça arrive tellement souvent. Mais quand j'ai freiné, j'ai vu que c'était Monceret qui était là, dans la rue. À première vue, il n'avait pas l'air blessé, il saignait un peu du genou, mais c'est tout. Et puis du sang s'est mis à couler de son nez, de ses oreilles, il n'a plus bougé. Il est resté allongé, immobile.
Un photographe de presse mitraille la scène. Sur ces photos, on voit des hommes en costume noir qui s'arrêtent. Ce sont des officiels de la course. Les hommes regardent au loin, ils scrutent l'arrivée d'un médecin ou d'une ambulance, mais rien ne semble venir. Du sang s'écoule maintenant de l'oreille et du nez de Jean-Pierre Monceret. Son ami et coéquipier Roger de Vlaminck, qui était derrière lui, s'arrête. Il crie au secours. Un médecin arrivera enfin. Il ne s'affaire pas beaucoup. Il comprend très vite. Il recouvre son corps d'un drap et prononce les mots « Tischgedan ». C'est fini. Dès le lendemain des funérailles de Jean-Pierre Monceret, la polémique commence. Pourquoi cette voiture était-elle là? Pourquoi le directeur de course n'a-t-il pas interdit la présence de voitures en sens inverse? La conductrice était-elle arrêtée? Mais du côté des organisateurs et des autorités, on préfère minimiser et accuser la fatalité. Ainsi, René Jacobs, journaliste sportif et organisateur de Liège-Bastogne-Liège.
On a posé la question à propos de l'accident malheureux donc, de Jean-Pierre Monceret. Dans les grandes épreuves, donc, les coureurs savent qu'il y a une escorte motocycliste et ils s'installent certainement dans ce sentiment de sécurité, plus ou moins. Et je crois qu'ils conservent le même sentiment dans n'importe quelle épreuve. Et c'est peut-être l'une des raisons du malheureux accident de Monceret qui, malgré tout, je crois, est dû à la fatalité.
Pire, dans une séquence qui apparaît aujourd'hui révoltante, le secrétaire général de la Fédération et conseiller juridique de la Royal League Vélocipédique Belge minimise totalement le problème. Dans un cahier, il a, avec son écriture soigneuse, tenu registre des courses, des blessés et des morts. 2,82 morts par an, en moyenne. Un chiffre qu'il juge très bas.
Nous avons 4321 coureurs. Sur cette année, nous avons en moyenne d'accidentés avec incapacité temporaire de 887, d'incapacité permanente 9 et de morts de 2,86. Ce qui, en somme, n'est-ce pas, représente tout de même un chiffre qui est très, 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 très bas quand on le compare à d'autres accidents qui se produisent sur la route.
Les coureurs n'ont qu'à le savoir, la mort fait partie du métier de cycliste. C'est le message des autorités à l'époque. Une certaine fatalité, une certaine banalisation de la violence routière aussi. Et la violence routière n'en a pas fini avec la famille Monceret. 5 ans après la mort de Jean-Pierre, son fils, Giovanni, qui a maintenant 7 ans, enfourche déjà les vélos. Il veut gagner des courses comme son papa, dont les portraits, les bras levés au ciel et les coupes ornent la maison familiale. À 7 ans, il enfile lui aussi le maillot de champion du monde de son père. Il fait le tour du quartier avec des amis. Sa maman raconte à la VRT comment, après son mari, elle a aussi perdu son fils.
Pour sa première communion, il avait reçu un vélo de course. Il roulait avec le maillot de Jean-Pierre, le maillot de champion du monde. Et ici, une rue plus loin, il est mort.
Pour la deuxième fois, le maillot de champion du monde sera le linceul d'un Monceret.
Il est parti avec son vélo et je ne l'ai plus revu. De la même manière que Jean-Pierre, il portait le même maillot, de la même manière, le même accident, sur le coin d'une voiture. Aussi avec ses amis autour. Ils étaient 4. Bien sûr, Giovanni était en tête. Il devait toujours gagner et être en tête. Tout comme Jean-Pierre. Les deux mêmes. Les deux mêmes.
La première.
L'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
François Brabant, cette histoire de Jean-Pierre Monceret, en la réécoutant, elle vous inspire quoi ?
Je dirais que ça montre à quel point, peut-être, si le mythe reste aussi vivant aujourd'hui, à quel point la Flandre et le cyclisme, il y a quelque chose de l'ordre de l'identitaire. Le vélo est en Flandre une des pièces comme ça sur lesquelles s'appuie la communauté, en fait, le sentiment collectif. Et en fait, dans toutes les cultures du monde, ce sont des éléments différents. On voit comme en Angleterre, ça passe par le rock. Les Stones et les Beatles, puis Blur et Oasis. Et ça dit quelque chose qui est extra-musical. Et en fait, en Flandre, ça passe par le cyclisme qui joue ce rôle-là. Il y a quelque chose, je pense, il faut replacer aussi qui était Monceret. Ses deux meilleurs amis, ce sont les frères Eric et Roger de Vlaminck. On parle de 8 hommes qui portent le cercueil de Monceret à son enterrement. Il y a Roger de Vlaminck parmi eux. On parle de cette photo qui existe où on voit le corps de Monceret couché sur la chaussée. Et juste à côté, il y a son ami, son meilleur ami Roger de Vlaminck avec le poing serré qui semble hurler au ciel et qui voit son ami mourir. Et dans ces années-là, les de Vlaminck et Monceret formaient un trio, une espèce de trio de contestataires, en fait, qui était, portait le maillot de l'équipe Flandria, qu'on a appelé la brigade anti-Merckx. Et ils incarnaient cet antagonisme par rapport à Eddy Merckx, qui était bruxellois, bilingue. Il y avait le roi Baudouin, et quelque part, il y avait le roi Eddy qui incarnait l'establishment, les dominants. Et les frères de Vlaminck et Monceret, à eux trois, incarnaient plutôt cette Flandre anti-Merckx qui s'affirmait dans ces années-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant et d'émouvant, en fait, à regarder le documentaire que la VRT a consacré à Monceret, parce que on voit les deux sœurs de Monceret, sa mère parlait, et on voit bien ces intérieurs d'une Flandre modeste. On voit la salle de sport où s'entraînait Monceret avec ses vieux espaliers, ses vieux tapis qui semblent n'avoir pas bougé. Et je pense que Monceret devient un mythe, c'est aussi parce que l'année où il meurt, 71, c'est l'année où la Flandre commence à s'affirmer. Et les coureurs cyclistes, Godefroot, De Vlaminck, toute cette génération de rêves, Freddy Martens, deviennent les icônes d'une Flandre qui gagne. Mmh. On est juste après ce point de basculement en 1966, où pour la première fois, le PIB par habitant en Flandre devient supérieur à celui de la Wallonie. Et Monceret vient de Roulers, là où il y avait rien, hein, c'était des champs de patates, quoi. Franchement, c'était une des régions les plus pauvres de Flandre occidentale. Et aujourd'hui, cette même région, le triangle Roulers-Courtrai-Waregem, c'est la région la plus riche de Flandre et une des régions les plus riches du monde. On appelle ça la Silicon Valley flamande, avec les biotechnologies, l'agroalimentaire. Et en fait, c'est intimement mêlé avec le cyclisme. L'équipe Quickstep, grand sponsor de cyclisme, bah, ça vient de cette région-là. Patrick Lefebvre, grand manager belge, il vient de là. Roularta, principal groupe média flamand aujourd'hui, plus de 1000 salariés. Bah, Roularta, Roulers, c'est là-bas. Le musée Course, un des deux musées consacrés au cyclisme en Flandre, l'autre étant à Oudenaarde, c'est à Roulers. Donc on voit que dans ces années où la Flandre devient plus riche, il y a une forme de parallélisme avec les coureurs qui gagnent. Et alors, Roulers, c'est aussi la ville de Geert Bourgeois, grand leader du nationalisme flamand juste avant De Wever, des années 90-2000, président de la Volksunie, premier président de la NVA, ministre-président flamand. Tout ça s'interpénètre en fait en toile de fond.
Oui, et avec ce qui est aussi frappant, enfin il y a plein de choses frappantes dans cette histoire, mais c'est l'émotion suscitée à l'époque, une vraie émotion populaire quand on regarde les images. Alors malheureusement, les images de la RTBF, on les a, mais ça arrive parfois. Il n'y a plus de son dessus, donc on a dû reconstituer ça après avec des images de la VRT et d'autres. Mais il y avait vraiment une foule énorme, presque 40 000 personnes. C'est un des plus gros événements qui est connu la ville de Roulers. Donc ça veut dire qu'à l'époque, le cyclisme était déjà quelque chose de central dans la vie de beaucoup de gens, quoi.
Oui, bien sûr, mais en fait, on a oublié aussi à quel point le cyclisme, dans les années déjà 10, 20, 30, est un sport éminemment populaire, encore plus que le football, ou en tout cas au moins autant que le football, et pas seulement en Flandre, aussi en Wallonie en fait, aussi en France, aussi dans le nord de l'Italie, l'ouest de l'Allemagne, donc c'est un petit territoire européen où le cyclisme est vraiment le sport roi de ces années-là qui vont aller du début du XXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et après, il y a une forme de déclin qui s'installe jusqu'aux années 2010. Le cyclisme a un peu l'image d'un sport vieillissant pendant tout un temps.
À ce moment-là, et c'est ce qu'on entend dans le récit, il y a Merckx qui est là, il y a Montserrat, il y a les De Vlaeminck. On n'a jamais eu une telle qualité, une telle génération dorée comme ça jusqu'à aujourd'hui peut-être.
Oui, d'ailleurs, De Vlaeminck, le meilleur ami de Montserrat, est avec Merckx et Van Looy un des trois seuls coureurs de l'histoire du cyclisme, tout pays confondu, à avoir remporté ce qu'on appelle les cinq monuments, c'est-à-dire les cinq plus grandes courses du calendrier cycliste. C'est une génération pour le cyclisme belge extraordinaire. D'ailleurs, Montserrat, quand devient champion du monde à Leicester en 70, il a contre lui d'abord les Belges. Mmh. On entend dans le documentaire de la VRT, Te Velkopmannen, trop de leaders, parce que il y a Merckx, il y a De Vlaeminck, il y a Godefroed, et alors Lehmann, Verbeek qu'on a un peu oublié. Et Montserrat doit gagner d'abord contre les autres leaders de l'équipe belge. Et ça, cette densité de coureurs de classique au top niveau mondial, c'est du jamais vu à ce moment belge au début des années 70. Et ça va revenir, en fait, ces 2, 3, 4 dernières années, en fait. La Belgique a toujours eu des très bons coureurs de classique. Ça n'a jamais disparu. On se souvient Johan Muset, Tom Bonen, Criquillon des années 80. Mais jusqu'il y a encore 4-5 ans, il n'y avait pas un seul Belge capable de gagner un sprint massif sur un grand tour. Pas un seul Belge capable de gagner un contre-la-montre ou un championnat du monde de contre-la-montre. Pas un seul Belge capable de gagner une grande étape de montagne. Ça, il y a 5 ans, il n'y avait pas. On était toujours super fort dans les classiques, mais pas sur les autres terrains. Et maintenant, en l'espace de 5 ans, on a toujours les meilleurs coureurs de classiques au monde, quasiment, mais aussi Arnaud Delis, Philipsen, Tim Merlier, qui sont capables de gagner des sprints massifs, Remco Evenepoel, et Sian Uytebroeks, coureur de Hannu, qui vient de gagner le Tour de l'Avenir il y a 6 mois, qui tous les deux sont amenés à devenir les superstars dans les courses de 3 semaines et les étapes de montagne. Et Kampenaerts, Wout van Aert et encore Remco Evenepoel, qui sont parmi les meilleurs rouleurs du monde et toujours capables de faire des podiums sur les contre-la-montre. Donc on voit que le registre des coureurs belges, c'est éminemment étendu et qu'il y a une nouvelle génération dorée ici depuis 4-5 ans.
La première,
l'histoire continue, Bertrand N. Hélène Maquet.
On évoque donc la mort de Jean-Pierre Monceret en 1971 dans cette émission. Jean-Pierre Monceret qui n'est pas le seul coureur évidemment à avoir perdu la vie en course ou à l'entraînement. Ce genre de drame fait partie de l'histoire du cyclisme. On peut même peut-être dire qu'il donne au cyclisme une dimension tout à fait singulière puisque c'est un sport où l'on risque sa vie lors de chaque sortie. Lors de la violente chute de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie en 2020, Rodrigo Benquen s'était montré particulièrement ému face aux images assez terribles hein, qui lui parvenaient. Et je lui ai demandé si ce jour-là, il avait pensé à Jean-Pierre Monceret.
À ce moment-là, sincèrement, non. J'ai davantage pensé à la mort de l'Italien Fabio Casartelli lors du Tour de France en 1995, parce que là, le contexte est un contexte où je suis en train de travailler. Je suis en train de commenter. Et ça, le précédent, c'était Casartelli. Et je vous assure que quand on commence à faire ce métier, métier passionnant, on n'imagine jamais qu'on va devoir un jour la mort de quelqu'un. Et ça, je l'ai vécu, ça m'a fort marqué. Et à ce moment-là, on pense à ça. En revanche, j'ai bien davantage pensé à Jean-Pierre Monceret lorsque, Tour de Pologne, un autre jeune coureur belge qui s'appelait Björg Lambrecht est décédé en course à l'âge de 22 ans. Là, je me suis souvenu des larmes que j'avais versées, moi, gamin, à l'âge de 7 ans. Je suivais beaucoup Björg Lambrecht et j'avais la conviction qu'on allait se retrouver très vite sur le Tour de France avec un Evenepoel capable de briguer le maillot jaune, un Van Aert capable de briguer le maillot vert, ce qu'il a déjà fait d'ailleurs entre-temps, et Lambrecht, le maillot du meilleur grimpeur. Donc voilà, et là c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, le lien a davantage été fait via Lambrecht en direction de Monceret.
François Brabant, la présence de la mort dans le cyclisme, on avait commencé à l'évoquer, c'est un sport dangereux. Est-ce que le danger et la mort sont considérés par les coureurs comme une forme de fatalité ?
Une fatalité, je ne sais pas, mais disons que c'est un élément avec lequel on vit. Et je pense que les coureurs n'y pensent pas tout le temps. D'ailleurs, il y a cette expression, on dit à l'approche d'un sprint ou au moment d'enclencher, de commencer la descente, on débranche le cerveau. C'est une expression du peloton, du jargon cycliste. Mais par contre, c'est un élément permanent. Et il y a à cet égard une espèce de renversement par rapport à la Formule 1 et la course automobile qui, jusqu'aux années 50-60, sont le sport le plus dangereux par excellence. Et des coureurs automobiles de la génération de Jackie X, par exemple, on dit le circuit est peuplé de fantômes parce qu'il y a plein de morts. Et le cyclisme, aujourd'hui, est un peu ce qu'était la Formule 1 il y a 50-60 ans. Et Tom Boonen, qui s'est reconverti après sa victoire dans Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, en coureur automobile, qui a couru les 24 heures de Zolder, qui a l'ambition ici de faire les 24 heures du Mans prochainement, disait dans une interview récemment que, selon lui, le cyclisme est un sport bien plus dangereux.
J'ai aussi posé cette question à Rodrigo Benquen. Tiens, est-ce que les coureurs vivent avec ce danger ? Est-ce qu'ils l'intériorisent ? Est-ce qu'ils le minimisent ? Peut-être aussi, on écoute sa réponse.
Je pense qu'on ne peut pas généraliser. Il y aura toujours une certaine dose d'inconscience quand on voit ce que font parfois certains routiers sprinters. Mais de manière générale, je crois de plus en plus. Et la génération actuelle, oui. Moi, je suis parfois en colère vis-à-vis de ceux dans le monde un peu extérieur qui ne comprendront jamais que ce sport, qui est à la fois un métier, mais aussi pour la plupart de ces professionnels, une passion, est dangereux. Il est vraiment très, très dangereux. Il demande évidemment beaucoup de sacrifices. Et je crois que, notamment via Björg Lambrecht, il y a un message qui est très clair. C'est que votre vie peut basculer en une seconde. Il y a eu, ne l'oublions pas, le destin de Remco Evenepoel et de Wout Van Aert est quand même incroyable parce que quand on regarde l'accident de Lambrecht, 9 fois sur 10, il doit s'en sortir. Quand on voit les accidents de Remco Evenepoel que vous avez évoqués, mais il y a aussi eu la grave chute de Wout Van Aert au Tour de France, bon, pour le même prix, ils étaient l'un et l'autre dans une chaise roulante où au minimum leur carrière était terminée avant même presque qu'elle ait commencé. Donc je suis convaincu que la génération d'aujourd'hui a compris ça, que tout peut s'arrêter, essaie de profiter du moment présent, essaie de faire en sorte que de penser un petit peu au futur, mais surtout de profiter du moment actuel et en sachant que ce sport reste dangereux. Je suis convaincu qu'en ayant deux locomotives qui ont vécu autant de drames, je parle bien sûr donc de Van Aert et d'Evenepoel, que ça a un impact sur la plupart des jeunes aujourd'hui. Oui.
Voilà, la présence de la mort dans le cyclisme, en tout cas du danger. Est-ce que, François Brabant, on peut dire que les courses cyclistes sont même peut-être plus dangereux que ce qu'elles étaient à l'époque de Jean-Pierre Monceret en 1971?
C'est difficile à dire parce qu'il y a des éléments de ressenti et d'autres facteurs plus objectifs. Ce qui est sûr, c'est que Monceret ne portait pas de casque. Michel Goffin, coureur de Piétrin près de Jodogne, mort en 87 en course dans une descente de col, ne portait pas de casque non plus quand il est mort. Fabio Casarselli, l'Italien qui est mort sur le Tour de France dans la descente du Portet d'Aspet dont Rodrigo a parlé, ne portait pas de casque.
Et ça, c'est quand même un gros changement.
Voilà, il y a eu la mort de Kivilev aussi, ouais. En 2006, si je ne me trompe, coureur kazakh sans casque. Et à la suite de ça, le port du casque à coque rigide, comme on l'appelle, est devenu obligatoire sur les courses. Ça a, pendant quelques années, créé l'impression que le sport cycliste devenait plus sécurisé. Et si on regarde ce qui s'est passé récemment, on ne peut pas s'empêcher d'être troublé par une espèce de série noire, parce qu'il y a Antoine de Moitié, coureur de Nandrin, près de Huy, qui est mort il y a quelques années sur Gent-Wevelgem. Björk Lambrecht, Rodrigo en a parlé. Wouter Weiland, mort sur le Giro. Tout ça, c'est années 2000. Hein. Stig Brooks, qui heureusement n'est pas mort, mais à la suite d'une très grave chute sur le Tour de Belgique 2016, hémorragie cérébrale, et on a pensé qu'il est resté plusieurs mois dans le coma, on a pensé qu'il n'en sortirait jamais. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe sur ces années récentes.
Et est-ce qu'au-delà, on sait que le port du casque, évidemment, c'est une manière de travailler la protection des cyclistes en eux-mêmes. L'autre possibilité, c'est le tracé des courses. On sait bien qu'évidemment, une arrivée à un sprint massif, c'est dangereux. Mais en même temps, c'est spectaculaire. Il faut que les courses soient spectaculaires. Une descente de col, c'est dangereux, mais c'est spectaculaire. Est-ce qu'il y a là une question aussi qui doit se poser sur vraiment le tracé des étapes et des courses par les organisateurs aujourd'hui?
C'est une question sur à laquelle j'ai moi-même beaucoup réfléchi et j'avoue hésité. Et je pense que c'est nécessaire d'arriver avec des éléments un peu objectifs pour sortir justement du ressenti. Et c'est à la suite justement d'une étude de l'Université de Gand qui ont analysé de façon chiffrée les causes des chutes. L'étude est parue il y a quelques mois, c'est très très intéressant parce que d'abord on voit où se produisent les chutes. Plus de 40% d'entre elles se produisent dans les 20 derniers kilomètres.
C'est-à-dire, au moment où il y a de la pression.
Voilà. Une course cycliste, c'est souvent 150, 200, voire 250 kilomètres. Donc, on voit que les chutes arrivent quand il y a de la tension dans le peloton. Là, le tracé n'importe pas. C'est le fait qu'il y a de la tension dans le peloton qui crée les chutes. Et alors, où arrivent-elles? 25% des cas en descente. Les descentes, il y en a toujours eu. Et 20% des cas, la phase d'approche d'un secteur stratégique, que ce soit des pavés, un sprint final ou une montée. C'est-à-dire, là encore, quand les coureurs en fait prennent des risques pour se placer. Et pareil pour la descente, il y a un côté prise de risque des coureurs eux-mêmes. Alors pourquoi prennent-ils ces risques-là? Parce qu'ils veulent gagner, bien sûr. Ça, c'était déjà le cas à l'époque de Monceret. Mais aussi parce que je pense que là, il y a un aspect de contexte qui a changé, c'est que le niveau des coureurs s'homogénéise. C'est-à-dire qu'à l'époque de Monceret et Merckx, la différence entre les quelques leaders qui dominaient le peloton et la masse des équipiers était assez grande. Et donc, c'était moins nécessaire de frotter, comme on dit, pour se placer aux avant-postes, parce que naturellement, les leaders émergeaient. Aujourd'hui, si vous avez 200 coureurs dans le peloton et les directeurs sportifs à l'arrière qui disent dans les oreillettes « Attention, secteur stratégique en vue, soyez dans les 20 premiers du peloton ». Mais forcément, il n'y a pas 200 coureurs qui peuvent être dans les 20 premiers du peloton. Et ça, c'est ça qui crée les chutes, en fait, je pense.
Donc, il y a aussi une pression qui est différente, peut-être, de celle de l'époque de Jean-Pierre Monceret, une pression notamment peut-être des sponsors, des managers, des directeurs d'équipe sur les cyclistes. On parlait de l'oreillette, ça aussi c'est un débat qu'il y a eu dans le monde du cyclisme.
Oui, parce que les oreillettes, elles créent cette tension parce qu'elles permettent aux directeurs sportifs dans leur voiture de mettre la pression sur leurs coureurs qui sont sur le vélo. Mais elles sont aussi un facteur de sécurité. C'est pour ça que moi, je suis très, très partagé. C'est aussi une manière, les coureurs cyclistes, par exemple, souvent, ils sont attachés parce qu'ils peuvent entendre leur directeur sportif à l'arrière, les mettre en garde en disant « Attention, il est directionnel, on arrive dans un rond-point, faites gaffe, chaussée glissante sur la droite ». Donc c'est aussi une manière d'accroître la vigilance des coureurs. Par contre, je pense que on est dans une société de la performance, dans une société où la culture managériale en général a irrigué tous les recoins. Et donc, c'est pas seulement les coureurs qui sont sous pression, ce sont aussi les directeurs sportifs qui, si leurs coureurs ne font pas de résultats, peuvent être virés. Ce sont les préparateurs physiques en disant « Tiens, celui-là, il n'était pas au niveau, qu'est-ce que t'as foutu ?» Tout le monde, à tous les échelons d'une équipe professionnelle, est sous pression et ça contribue, je pense, à accroître le danger des courses.
François Brabant, ça pose aussi la question, peut-être, enfin je vous pose la question en fait, est-ce que vous voyez à travers ces accidents des alarmes ou des révélateurs de la violence routière au quotidien, hein, dans, de ce que les cyclistes au quotidien, vous êtes aussi un cycliste au quotidien, peut connaître, puisque Jean-Pierre Monceret et son fils sont morts avec un accident, avec une voiture qui n'aurait pas dû se trouver là. Bon, là, c'est une affaire de course, mais son fils, c'est un accident, en fait, de vélo avec une voiture, comme on peut en connaître, malheureusement, trop souvent. Ces affaires, elles interrogent ça, le cyclisme professionnel, il interroge aussi la violence routière.
Disons que les cyclistes, qu'ils soient d'ailleurs sportifs au quotidien, sont vulnérables. Ils ne sont pas faibles, mais ils sont vulnérables. Ils sont à la merci d'autres usagers, que ce soit des camions, des voitures. On a eu la mort coup sur coup en quelques années de Michele Scarponi et de Davide Rebellin, deux grandes stars du cyclisme italien fauchées par des camions. Et on voit bien que les coureurs cyclistes, bien sûr, il y a les courses, mais sur une année, ils passent plus de kilomètres.
Dans l'entraînement.
À l'entraînement, sur des routes ouvertes. Et là, pas plus tard que hier soir, en fait, je parlais avec mon petit frère à qui je lui demandais un peu son avis, mon petit frère qui fait de la compétition cycliste. Et lui disait, mais en fait, des amis qui se sont fait renverser par une voiture, je t'en cite 10-15 sans problème. La réalité de tout coureur ou coureuse cycliste qui s'entraîne aujourd'hui, c'est d'aller rouler la peur au ventre. Il y a eu cet épisode il y a quelques années où Philippe Gilbert avait été accusé d'avoir actionné un spray au poivre, qui est une arme interdite en Belgique. Mais le fait qu'il faisait ses entraînements avec ça dans sa poche...
Il se sentait menacé.
Voilà, ça traduisait le fait que quand on roule plusieurs 5-6 heures tous les jours sur des routes, la réalité, c'est qu'on roule avec la peur au ventre.
Avec une vraie difficulté, si on essaye de retisser les fils et de faire résonner les années 70 avec aujourd'hui, Bertrand, vous disiez une voiture qui n'aurait pas dû se trouver là pendant la course. Aujourd'hui, on sait que pour les cyclistes, quotidien, les gens qui se déplacent à vélo, il y a de plus en plus d'infrastructures et donc une place dans l'espace public, une place dans la circulation qui est beaucoup plus claire avec des pistes cyclables, etc. Mais un cycliste à l'entraînement ne va jamais aller rouler sur une piste cyclable. Il doit rouler sur route puisque en compétition, il va être sur route. Donc là, il y a quelque chose aussi qui est quasiment impossible à résoudre.
Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impensé parmi les autorités politiques et les hauts fonctionnaires qui construisent les routes. C'est tout ce qui est attention portée aux cyclistes en termes d'infrastructure, c'est surtout en milieu urbain. On a cette image de la personne qui se déplace à vélo pour aller conduire ses enfants à l'école ou aller prendre le train peut-être. Et en dehors des grandes villes, il n'y a pour ainsi dire rien du tout, surtout en Wallonie. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec le magazine Wilfried, on a pris cette initiative de porter collectivement un texte qu'on appelait le plan Sieur, en hommage à un coureur cycliste wallon, Léon Sieur, qui avait gagné le Tour de France, mais qui, avant ça, était un ouvrier qui faisait la navette en vélo de Florennes à Châtelet, où il travaillait, pour justement alerter en disant qu'il faut un manifeste pour un cyclisme en sécurité, y compris dans les campagnes et en dehors des grandes zones urbaines. Et ce manifeste a été signé par deux des plus grands coureurs professionnels actuels, Arnaud Delis et Sylvain Moniquet, qui montrent bien, et aussi par Alissa Lurquin, championne de Belgique de VTT Marathon, qui montrent bien que les cyclistes d'élite, qui d'habitude sont un peu timorés à l'idée de s'engager politiquement, là, on avait un combat qui résonnait très fort chez eux.
Merci beaucoup François Brabant d'être venu avec nous faire résonner donc ce décès tragique de Jean-Pierre Monceret en 1971 avec la manière dont on pratique le cyclisme aujourd'hui en course, à l'entraînement et puis sur les routes wallonnes. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et merci également à Rodrigo Benkens d'avoir été présent par téléphone durant cette émission.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Remy.